Bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième saison de Gloria. Alors Gloria, c'est une série d'émissions consacrées aux femmes rebelles, aux femmes combattantes, aux femmes guerrières. Et autour de la table, on a des bénévoles des effets sonores. Alors les effets sonores regroupent les animateurs de Studio Zef, la radio blésoise du Loir-et-Cher, la radio associative. Donc on va vous proposer une dizaine d'émissions. On va s'intéresser à des femmes qui viennent d'univers musicaux totalement différents, qui viennent de plusieurs parties du monde. Et puis ben, on espère que vous allez découvrir de nouvelles artistes grâce à nous. On commence avec Christophe. Salut.
Bonjour.
Salut Véro aussi.
Salut, bonjour
Timo.
À tous.
Bonjour à tous.
Et puis il y a Jérémy à la technique. Merci, heureusement qu'il est là.
Ah ouais.
Il nous enlève une grosse épine du pied.
Il améliore la présentation.
Voilà, salut à tous. Alors Christophe, au boulot, c'est parti, on entame.
Bon alors, je vous propose de démarrer cette deuxième saison avec... Déborah Harry, Debbie Harry pour les intimes, et je pense que c'est un lien idéal pour prolonger la saison 1, où on avait mis en évidence quelques artistes assez hard au niveau du rock'n'roll. Là, on attaque avec quelqu'un qui est une icône de la punk attitude féminine, mais elle est plutôt glamour dans son approche. En tout cas, elle est ressentie dans l'esprit général comme quelqu'un de glamour, même si c'est de la punk attitude. Donc je vous donne quelques repères biographiques quand même pour savoir qui elle est. Et elle est née en 1945, donc nous avons affaire désormais à une mamie.
Mmh.
Et il est bon de savoir que les mamies peuvent être punk aussi.
Bien sûr.
Et elle a été adoptée à l'âge de 3 ans. Et elle a fait ses premières armes professionnelles en tant que secrétaire à la BBC. Et elle a été serveuse au Max Kansas City, un lieu mythique de la scène new-yorkaise. Et elle a été danseuse. Et elle a d'entrée de jeu créé des groupes de musique, puisqu'elle a ça dans la peau quand même, cette dame. Et dès 68, elle a créé un groupe folk qui s'appelle Wind the Willow. Tout ça. Et 74, donc c'est le début de Blondie, le groupe hyper célèbre, qui a démarré sa vie sur une autre scène mythique de New York, qui est le CBGB's. Et là, elle a pu créer avec notamment Chris Stein, qui était son partenaire à la ville, comme à la scène. Et ils ont créé un espèce de cocktail entre le disco, le pop, le rap, le reggae. Et c'est devenu par la suite une vague new wave. Et même, ils ont été un peu les figures marquantes du début du disco, où il y a eu des remixes de ce groupe. Donc cette dame d'entrée de jeu a joué sur sa féminité que certains ont considérée comme provocante, avec des tenues très sexy. Et quand elle entrait sur scène, elle se faisait sa blondeur était très remarquée, elle se faisait siffler. Et donc naturellement, ce groupe est devenu Blondie. Et elle n'a pas honte désormais de parler de sa bisexualité, et qu'elle a bien exercé même pendant sa vie de couple avec Chris Stein. Et désormais, elle revendique tout cela haut et fort. Et une de ses marques de fabrique dans ses combats, ça a été notamment de porter la voix contre ce qu'il se passe politiquement en URSS, en Russie, l'URSS n'existe plus, au moment notamment de Sochi, où on lui avait proposé de chanter lors des JO de 2014, JO d'hiver, et en guise de réaction au traitement infligé aux homos. Et elle prend très souvent la défense des droits des lesbiennes, des gays, des bi, des trans, qui sont régulièrement bafoués. Et cette icône du rock est désormais plutôt la papesse écolo, puisqu'elle elle intervient sur des ONG et elle prend la défense des abeilles. Donc, cette mamie qui continue d'être sur scène.
À les tatouages tout fripés.
À les tatouages tout fripés, parce que...
Non, j'imagine.
Elle revendique toutes ses opérations de...
Les opérations de chirurgie esthétique.
Elle est à fond dans la chirurgie esthétique.
Ouais.
Et désormais, on peut certainement dire que cette personne est inoxydable.
Bah, carrément. Bah, alors du coup, on écoute un morceau de Debbie Harry.
Et un de ses tubes, Heart of Glass.
Eh oui.
Que tout le monde connaît, même si vous ne connaissez pas Blondie, je suis sûr que vous connaissez ce morceau.
One more love, and it was a gas.
Vous écoutez Gloria, une émission consacrée aux femmes rebelles, guerrières et battantes. Et là, c'est Véro qui nous présente une rappeuse afghane.
Oui, tout à fait. Cette rappeuse s'appelle Sonidja, elle a 18 ans. Elle est fan de musique et elle s'invente des parents. Elle a des parents imaginaires, c'est Michael Jackson et Rihanna.
Alors là, elle
est totalement fan.
En Afghanistan.
Et, ouais, exactement. Et elle se voit bien faire une carrière de chanteuse. Et là, dans son histoire, elle s'apprête à entrer en résistance contre des pratiques d'un autre âge. Sonita, ou Sonidja, excusez-moi de la prononciation, Alizadeh, de son nom de famille, est une réfugiée donc afghane clandestine en Iran. Et elle habite avec sa sœur et sa nièce dans la banlieue pauvre de Téhéran. Elle est hébergée dans un centre pour enfants réfugiés qui la scolarise et qui l'emploie à mi-temps comme femme de ménage. Ensuite, elle se met très vite à écrire du rap pour exprimer vraiment sa colère face au sort qu'elle voit, qui est réservé aux petites filles de son âge. Dans son pays. Elle chante tout de suite des textes devant ses copines, voilà, comme on fait quand on est gosse, voilà, et fait du porte-à-porte pour essayer de trouver un producteur pour ses poèmes qu'elle met en musique rapidement aussi. Évidemment, elle n'essuie que des refus. Elle subit en même temps la pression de sa famille restée au pays, puisqu'on veut la marier de force. C'est la tradition, c'est comme ça, lui dit sa mère, elle-même ayant subi le même sort. Sa mère, qui est complètement en désaccord avec les envies de liberté de sa fille, elle débarque à Téhéran et annonce à sa fille qu'elle l'a vendue à un inconnu contre la somme de 9000 dollars, argent dont la famille a bien besoin, entre autres pour financer le mariage du fils qui, à son tour, achètera sa fiancée. Mmh. Alors, c'est l'histoire de ce combat de Sonidja que raconte un film, un documentaire de la réalisatrice iranienne Maghami, de son nom de famille, qui au départ voulait faire un documentaire plus généraliste sur l'éducation des filles. Et puis, dans ce centre social de Téhéran géré par une ONG, elle est tombée sur Sonidja, qui avait besoin d'aide. Elle décide alors d'acheter, entre guillemets, à la jeune fille 6 mois de sursis supplémentaires avant le mariage, en proposant 2000 dollars à sa mère. C'est elle encore qui profite de ce délai pour filmer un clip et permettre à Sonidja de s'échapper vers une école artistique aux États-Unis avec une bourse scolaire et un passeport en poche. Alors, c'est une très belle histoire de solidarité peu commune dans ce contexte, qui va bien au-delà du cas Sonidja, évidemment. Le clip de la réalisatrice met en scène Sonidja, scandant son rap qu'elle a écrit. Hein. Les femmes ne sont pas à vendre. Grimée de maquillage qui se mélange aux larmes de la chanteuse. Enfin, je vous invite à voir ça sur YouTube. On va tout de suite écouter ce rap qui s'appelle Brides for Sale, Mariée à vendre. Voilà, on y va.
Oh. Voilà, c'était Sonija, une rappeuse afghane. Et en fait, alors qu'elle est finalement, elle est aux États-Unis.
Elle est aux États-Unis. Effectivement, j'ai essayé d'avoir des infos sur ce qu'elle était devenue. Je ne sais pas si elle a pu continuer ses études et surtout vivre de sa passion, c'est-à-dire la musique et le rap. Donc voilà.
Super découverte.
Ouais, vraiment une super découverte. Et franchement, en ce moment, justement, dans la semaine Elle, ce documentaire va être diffusé plusieurs fois dans différentes villes de France. Donc je vous encourage à aller le voir, vraiment.
Ça marche. Bon, bah super. On enchaîne maintenant avec une artiste, avec de la musique classique. Voilà, on change complètement de siècle.
D'univers.
Exactement. Mmh. Moi, je vous propose de découvrir Essel Smiles. Alors, en fait, c'est une compositrice de musique classique. Elle est née à Londres dans les années 1850, dans l'Angleterre victorienne. Et très tôt, elle a envie de faire de la musique. À 12 ans, elle dit « Bon, bah moi, je serai compositrice de musique classique. » Son père, qui est général dans l'armée britannique, il dit « Non, 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 ça, c'est pas le destin d'une jeune femme de l'Angleterre victorienne. Tu seras gouvernante. » Alors, en fait, pour arriver à ses fins, ce qu'elle fait, c'est qu'elle elle quitte l'Angleterre incognito, déguisée en homme, et elle se rend en Allemagne où elle intègre un conservatoire. Et c'est la première fille à intégrer une classe de composition au conservatoire Leipzig, en Allemagne. Et alors, elle fait son petit bonhomme de chemin et elle rencontre quand même des grands comme le compositeur Brahms, Clara Schumann qui est la femme du compositeur Schumann et elle qui est pianiste. Elle rencontre aussi le compositeur russe Tchaïkovski qui lui dit, tous lui disent, écoute, t'as un avenir visiblement, donc il faut vraiment continuer dans cette voie. Donc ensuite c'est l'envol, elle retourne en Angleterre, on joue ses messes un peu partout, on joue ses morceaux, ses compositions en France, en Allemagne, en Angleterre, un peu partout. Elle est donc hyper connue et sa carrière est ponctuée de nombreux succès. Elle fait des opéras également. Et en fait, début du XXe siècle, en 1911, elle promet au Women's Social and Political Union. En fait, c'est un mouvement de suffragettes en fait, qui se bat pour revendiquer le droit de vote pour les femmes au Royaume-Uni. Donc, Essel Smiles s'engage auprès de ce mouvement et écrit d'ailleurs l'hymne du mouvement. Et c'est le morceau qu'on va écouter dans quelques instants. Donc cet engagement d'Essel Smiles lui vaut en fait une peine d'emprisonnement, parce que lors d'une manifestation, elle brise des fenêtres d'une résidence du secrétaire d'État aux colonies. Rebelle et elle fait de la prison pour son engagement. Et il y a juste une petite anecdote que je voulais vous raconter que je trouvais rigolote, c'est que quand elle était en train de purger sa peine, elle a reçu la visite en fait d'un célèbre chef d'orchestre anglais et quand le gardien de prison a ouvert la porte à ce visiteur en lui disant bon allez voir Essel Smiles, lui il rigolait, il disait vous allez voir, la scène est assez surprenante. Et en effet, elle, pendant sa peine de prison, elle avait créé une chorale, voilà, tout simplement dans la prison. Donc elle continuait à diriger des femmes et à faire de la création musicale. Donc
jusqu'au bout.
Oui, puis après, évidemment, elle est sortie de prison et elle a même été, 11 ans plus tard, en 1922, puisqu'elle est entrée en prison en 1911, en 1922, elle a été, elle a eu un titre honorifique, donc c'est devenu Dame Essel Smiles de l'Empire britannique pour le service rendu à la musique de son pays. Voilà, c'est parti. Je voulais juste rajouter un truc, parce qu'on en a toujours beaucoup de choses à dire. Ouais. Elle était aussi bisexuelle, cette femme, et elle est tombée amoureuse de Virginia Woolf, l'écrivaine.
Ah ouais.
Et elle, Virginia Woolf, était bisexuelle aussi, mais en fait, elle a jamais vraiment. Elle lui a pas tendu la main. Voilà, Essel Smiles était amoureuse de Virginia Woolf qui s'en est amusée, tout simplement.
La vilaine.
C'est parti. Donc, c'est The March of the Woman.
Thank you.
The March of the Woman, voilà l'hymne des suffragettes en Angleterre.
On va changer complètement de style.
Exactement, Timo, c'est parti.
Alors, on va passer sur une blues woman, une vraie de vraie, un véritable ovni dans le monde du blues. Donc, c'est une guitariste qui s'appelle Beverly Guitar Watkins. Beverly Watkins. Donc, c'est une guitariste et chanteuse de blues dans le style de Buddy Guy avec un jeu de guitare assez agressif. Elle a dû traverser pas mal d'obstacles dans sa vie de musicienne, notamment parce que le blues est un monde assez machiste. Donc dès les années 50, elle va se produire dans les radios locales, dans les clubs de la région. Elle est d'Atlanta, avant de rejoindre le groupe qui s'appelle Piano Red and the House Rockers. Ouais. Et voilà, c'est là où elle sort ses premiers disques avec ce groupe-là. Et voilà, également, elle a une carrière solo. Elle va jouer avec B.B. King, Ray Charles, James Brown. Enfin, c'est vraiment une artiste assez énorme. Bah, comme je vous disais, c'est vraiment un ovni de par son jeu, son CV, sa longévité. Elle est née en 1939, elle continue à tourner encore aujourd'hui. Un exemple, elle joue de la guitare à la Hendrix dans le dos. Enfin, les images sont totalement surprenantes de voir cette mamie aujourd'hui qui envoie du bois. Bah, on va écouter le morceau Red Mama Blues.
Now, people, let me tell you about the headline news. Yeah, listen up now, people. Gotta tell you about the headline news. You see, Red Mama's back in town, and sure enough, she's gonna play you some blues.
l'histoire d'une fille rebelle.
Anna Politkovskaya, journaliste.
Autrefois en Russie, de nombreux livres étaient interdits. Les parents de la petite Anna faisaient donc entrer en cachette ses livres préférés afin qu'elle puisse lire à son aise. Anna grandit et devint journaliste. Quand une partie de la Russie, appelée la Tchétchénie, voulut obtenir son indépendance, le gouvernement russe envoya des troupes pour l'en empêcher. Une guerre brutale éclata. Anna décida qu'il fallait écrire. Elle voulait montrer au monde entier ce qu'il se passait véritablement en Tchétchénie. Cela ne plut pas du tout au gouvernement russe. « Pourquoi mets-tu ta vie en danger ?» s'inquiéta son mari. « Le risque fait partie de mon métier, » répondit Anna. « Je sais qu'il peut m'arriver quelque chose. Je veux simplement que mes articles rendent le monde meilleur. » Il se passa beaucoup de choses terribles, mais Anna était courageuse. Une nuit, elle dut courir sans s'arrêter dans les collines tchétchènes pour échapper aux services de sécurité russes. Les gens des deux côtés voulaient l'empêcher de témoigner. Quelqu'un versa même du poison dans son thé pour s'en débarrasser. Mais malgré ses dangers, elle continua vaillamment à dire la vérité sur tout ce qu'elle voyait. Anna risqua sa vie jusqu'au jour de sa mort pour rendre le monde meilleur.